La mouette, roman de mœurs par Fernand Caballero, traduit de l'espagnol par Don Teoti Moté. Première partie. Chapitre 1er. Au mois de novembre 1836, le paquebot à vapeur Royal Sovereign s'éloignait des côtes brumeuses de Falmouth, fouettant les vagues avec ses longs bras et déployant ses voiles sombres et humides dans le brouillard, plus sombre encore et plus humide qu'elle. L'intérieur du vaisseau présentait le triste spectacle du début d'un voyage maritime. Les passagers entassés étaient aux prises avec le mal de mer. On voyait les femmes dans des attitudes étranges, les chemisettes fripées, les cheveux en désordre. Les hommes étaient pâles et de mauvaise humeur, les enfants abandonnés et pleurant. Les domestiques traversaient le pont à pas mal assurés pour porter aux patients du thé, du café ou quelques remèdes imaginaires, pendant que le vaisseau, roi et dominateur des eaux, sans s'occuper des maux qu'il occasionnait, luttait à force de bras contre les lames, les surmontant quand elles faisaient résistance et les suivant de près quand elles fuyaient devant lui. On voyait se promener sur le pont les hommes qui avaient su se préserver du mal général, soit grâce à leur complexion particulière, soit grâce à leur habitude des voyages. Parmi eux se trouvait le gouverneur d'une colonie anglaise, bel homme de haute taille, accompagné de deux aides de camp. Quelques autres étaient enveloppés dans leur mackintosh, les mains dans les poches, le visage rouge ou violet, ou très pâle et défait. Enfin, le beau bâtiment semblait être devenu le séjour du malaise. Au nombre des passagers, on remarquait un jeune homme d'environ 24 ans, dont le maintien, noble et simple à la fois, et la calme et belle figure, n'indiquaient pas la moindre indisposition. Il était grand et bien tourné. Le port de sa tête était plein de grâce et de dignité. Son front blanc et majestueux était encadré de cheveux noirs et frisés. Ses grands yeux, noirs aussi, laissaient échapper des regards pleins de douceur et de pénétration. Sur ses lèvres, ombragées d'une fine moustache, se dessinait un sourire affable qui annonçait l'intelligence et la vivacité d'esprit, et dans toute sa personne, dans tous ses gestes, on devinait l'élévation de son rang et de son âme, sans le moindre mélange de cet orgueil que quelques-uns croient à tort inséparable de toute espèce de supériorité. Il voyageait pour son plaisir. C'était un homme essentiellement bon, qu'un sentiment de généreuse indignation portait à s'élever contre les vices et les égarements de la société, sans qu'il se sentît pour cela la vocation de combattre les moulins à vent comme un Don Quichotte. Il recherchait le bien et éprouvait, à le rencontrer, le même plaisir qu'éprouve la jeune fille en faisant sa cueillette de violette. Sa physionomie, ses manières gracieuses, sa désinvolture quand il s'enveloppait dans son manteau, l'impassibilité qu'il montrait dans le désarroi général, disaient assez qu'il était espagnol. Il examinait rapidement, en se promenant, le spectacle formé par la foule que le hasard avait entassé sur ses planches dont l'ensemble s'appelle un vaisseau, comme dans d'autres dimensions on l'appelle un cercueil. Mais il y a peu à observer chez des hommes qui paraissent ivres et chez des femmes qui ont l'air de cadavres. Cependant, son intérêt fut excité particulièrement par la famille d'un officier dont la femme avait été amenée à bord tellement indisposée qu'on fut obligé de la porter dans sa cabine. On avait agi de même avec la gouvernante que le père suivait avec un nourrisson sur les bras, après avoir fait asseoir sur le pont trois autres petites créatures de 2, 3 et 4 ans, en leur recommandant d'être bien sages et de ne pas bouger de là. Les pauvres petits, élevés sévèrement peut-être, restaient immobiles et silencieux, comme les enfants qu'on représente au pied de la Vierge. Peu à peu, le bel incarnat de leurs joues disparut. Leurs grands yeux, ouverts démesurément, devinrent comme éteints et hébétés, et, sans qu'un mouvement ni une plainte révélât ce qu'ils enduraient, la souffrance comprimée se peignit sur leurs visages altérés et flétris. Personne ne remarquait cette torture silencieuse, cette douce et douloureuse résignation. L'Espagnol allait appeler le majordome quand il entendit répondre avec mauvaise humeur à un jeune homme qui, en allemand et avec des gestes expressifs, paraissait réclamer un secours en faveur de ces pauvres petits abandonnés. Comme la personne du jeune homme n'annonçait ni élégance ni distinction, et comme il ne savait parler qu'allemand, le majordome lui tourna le dos en lui disant qu'il ne le comprenait pas. Alors, l'Allemand descendit à sa cabine située à l'arrière du navire et revint lestement, apportant un oreiller, une couverture et un manteau de laine, avec lesquels il fit une espèce de lit, y coucha les enfants et les couvrit avec le plus grand soin. Mais à peine y étaient-ils étendus que le mal de mer, contenu dans ses effets par l'immobilité, fit soudain irruption avec violence et, en un instant, oreillers, couvertures et manteaux furent inondés et souillés. L'Espagnol regarda en ce moment l'Allemand, sur le visage duquel il n'aperçut qu'un sourire de bienveillance et de satisfaction qui semblait dire « Dieu soit loué, ils sont enfin soulagés ». Il lui adressa la parole en anglais, en français et en espagnol, mais il ne reçut d'autre réponse qu'un salut assez gauche avec cette phrase répétée « Ich verstehe nicht. Je ne comprends pas. » Lorsqu'après le dîner, l'Espagnol remonta sur le pont, le froid avait augmenté. Il s'enroula dans son manteau et se mit à se promener. Alors il aperçut l'Allemand assis sur un banc et regardant la mer qui, comme par coquetterie, faisait briller sur les flancs du navire ses perles d'écume et ses lueurs phosphorescentes. Le jeune observateur était bien légèrement vêtu. Son manteau était devenu hors de service et il devait souffrir cruellement du froid. L'Espagnol fit quelques pas pour s'approcher, mais il s'arrêta, ne sachant comment lui adresser la parole. Soudain, il sourit comme d'une heureuse idée et, allant droit à lui, il lui dit en latin « Vous devez avoir bien froid ». Cette voix, cette phrase, produisirent chez l'étranger la plus vive satisfaction et, souriant lui-même comme son interlocuteur, il lui répondit dans la même langue « En effet, la nuit est un peu froide, mais je ne pensais pas à cela. » « À quoi pensiez-vous donc ?» lui demanda l'Espagnol. « Je pensais à mon père, à ma mère, à mes frères et à mes sœurs. » « Pourquoi voyagez-vous alors si cette séparation vous fait tant de peine ?»« Ah, monsieur, la nécessité, cet implacable tyran !» « Vous ne voyagez donc pas pour votre plaisir ?»« Ce plaisir est bon pour les riches, et moi, je suis pauvre. »« Pour mon plaisir. Si vous connaissiez le motif de mon voyage, vous verriez combien il est loin de m'être agréable. »« Où donc allez-vous ? » ?»« à la guerre civile, la plus terrible de toutes, en Navarre. »« À la guerre ?» s'écria l'Espagnol en considérant l'aspect plein de bonté, de douceur, presque d'humilité de l'Allemand. « Est-ce que vous êtes militaire ?»« Non, monsieur, ce n'est pas là ma vocation. Ni mon goût, ni mes principes ne me porteraient à prendre les armes, excepté pour défendre la sainte cause de l'indépendance de l'Allemagne si l'étranger tentait de nouveau de l'envahir. Je vais à l'armée de Navarre pour tâcher de m'y placer comme chirurgien. » Et vous ne connaissez pas la langue ? Non, monsieur, mais je l'apprendrai. Ni le pays ? Pas davantage. Je ne suis jamais sorti de mon village que pour aller à l'université. Mais vous avez des recommandations ? Aucune. Vous avez quelques protecteurs ? Je ne connais personne en Espagne. Mais alors, qu'avez-vous donc ? Mon instruction, ma bonne volonté, ma jeunesse et ma confiance en Dieu. » En entendant ces paroles, l'Espagnol demeura pensif. En observant ce visage sur lequel se peignaient la candeur et la mansuétude, ses yeux bleus, purs comme ceux d'un enfant, ce sourire triste et en même temps plein de confiance, il se sentit vivement intéressé et presque attendri. « Voulez-vous, lui dit-il au bout d'un moment, descendre avec moi et accepter un punch pour chasser le froid. Pendant ce temps-là, nous causerons. » L'Allemand s'inclina en signe de gratitude et suivit l'Espagnol qui descendit dans la salle à manger et demanda un punch. À la place d'honneur se trouvait le gouverneur avec ses deux acolytes. Il y avait deux Français sur un des côtés. L'Espagnol et l'Allemand s'assirent au bas-bout de la table. Mais, demanda le premier, comment avez-vous pu concevoir la pensée de venir dans ce malheureux pays ? L'Allemand lui fit alors un fidèle récit de sa vie. Il était le sixième enfant d'un professeur d'une petite ville de Saxe qui avait dépensé tout ce qu'il possédait pour l'éducation de ses enfants. Quand la sienne fut terminée, il se trouva sans occupation ni emploi après avoir consacré sa jeunesse à d'excellentes et sérieuses études et avoir exercé son art sous les meilleurs maîtres. Son entretien devenait une lourde charge pour sa famille. C'est pourquoi, sans perdre courage et avec son flegme germanique, il prit la résolution de venir en Espagne, où la guerre sanglante et malheureuse du Nord lui donnait l'espoir de pouvoir utiliser ses connaissances. « Sous les tilleuls qui ombragent la porte de ma demeure, dit-il en terminant son récit, j'ai embrassé pour la dernière fois mon bon père, ma bien-aimée mère, ma sœur Charlotte et mes petits frères qui voulaient me suivre dans mon exil. Je suis donc entré bien triste et baigné de larmes dans cette vie qui se présente à d'autres parée de fleurs. Mais courage, l'homme est né pour le travail et le ciel récompensera mes efforts. J'aime la science que je professe parce qu'elle est noble et grande et qu'elle a pour objet le soulagement de nos semblables. Et si son exercice est pénible, ses résultats sont beaux. Et vous vous appelez ? Frédéric Stein, répondit l'Allemand en s'enfonçant un peu sur sa chaise et faisant un léger salut. Peu d'instants après, les deux nouveaux amis sortirent. Un des Français qui était en face de la porte vit qu'en montant l'escalier, l'Espagnol avait jeté sur les épaules de l'Allemand son beau manteau doublé de fourrure, que l'Allemand avait voulu s'y opposer, mais que l'autre s'était esquivé en gagnant sa cabine. « Avez-vous entendu ce qu'il disait ? » dit-il à son compatriote. « À dire vrai, répondit l'autre, qui était un commis voyageur, le latin n'est pas mon fort, mais le garçon blond et pâle me fait l'effet d'une espèce de Werther pleurnicheur, et j'ai compris qu'il y a dans son histoire quelque chose de Charlotte et aussi des petits-enfants, comme dans le roman allemand. Par bonheur, au lieu d'avoir recours au pistolet pour se consoler, il a préféré le punch, résolution moins sentimentale, mais beaucoup plus philosophique et allemande. Quant à l'Espagnol, je le regarde comme une espèce de Don Quichotte, protecteur des abandonnés, avec des allures de Saint-Martin, partageant son manteau avec les pauvres. Joignez à cela ses manières hautaines, ses regards fermes et perçants, et son visage pâle et mat, comme un paysage au clair de lune, et vous aurez un ensemble parfaitement espagnol. « Savez-vous, répondit l'autre, que je vais à Tarifa comme peintre d'histoire pour représenter le siège de cette ville au moment où le fils de Guzman demande à son père de le sacrifier plutôt que de rendre la place. Si ce jeune homme consentait à me servir de modèle, je suis sûr que je réussirai mon tableau. Je n'ai jamais vu la nature plus près de l'idéal. » « Les artistes sont tous comme cela, répondit le commis voyageur, toujours poète. Pour moi, si je ne me suis pas trompé par ce qu'il y a de gracieux dans cet homme, par son pied bien fait et petit comme celui d'une femme, par l'élégance et la finesse de sa tournure, j'en fais un torero. Peut-être est-ce Montes lui-même qui a à peu près le même air et qui d'ailleurs est riche et généreux. « Un torero ! » s'écria l'artiste, « un homme du peuple ? Vous plaisantez ?»« Non, certainement, dit l'autre, je suis loin de plaisanter. » Vous n'avez pas vécu comme moi en Espagne et vous ne connaissez pas le caractère aristocratique de son peuple. Vous verrez, comme grâce au progrès de l'égalité et de la fraternité, les airs choquants de l'aristocratie commencent à disparaître. Je suis persuadé qu'on ne les rencontrera bientôt plus que chez les gens du peuple. Croire que cet homme est un torero, dit l'artiste avec un sourire si méprisant que l'autre se leva tout piqué et cria « Je saurai bientôt qui il est. Venez avec moi et nous nous informerons auprès de son domestique. » Les deux amis montèrent sur le pont où ils ne tardèrent pas à rencontrer l'homme qu'ils cherchaient. Le commis voyageur, qui parlait un peu l'espagnol, entama conversation avec lui et, après quelques phrases insignifiantes, il lui dit « Votre maître s'est retiré dans sa cabine ?»« « Oui, monsieur, » répondit le domestique, en jetant à son interlocuteur un coup d'œil plein de pénétration et de malice. « Est-il très riche ?»«
Je suis son valet de chambre et non son intendant. »«
Voyage-t-il pour affaires ?»«
Je ne crois pas qu'il en fasse. »«
Ou pour sa santé ?»«
Elle est excellente. »«
Voyage-t-il incognito ?»«
Non, monsieur, il voyage avec son nom et son prénom. »
Et il s'appelle
Don Carlos de la Cerda.
Nom illustre, certainement, s'écria le peintre.
Moi, je m'appelle Pedro de Guzman, dit le domestique, et je suis bien votre serviteur.
Après quoi, il leur fit un salut et se retira.
Gil Blas a raison, dit le français. En Espagne, il n'y a rien de plus commun que les noms illustres. Il est vrai qu'à Paris, mon cordonnier s'appelait Martel, mon tailleur Roland et ma blanchisseuse Madame Bayard. En Écosse, il y a plus de Stuart que de Pierre. Nous voilà bien avancés, ce vagabond de domestique s'est moqué de nous. Mais, tout bien considéré, je soupçonne que c'est un agent de la faction, un employé obscur de Don Carlos.
Non, certainement, répliqua l'artiste, c'est bien mon Alonso Pérez, le héros de mes rêves.
L'autre français haussa les épaules.
Quand le vaisseau arriva à Cadix, l'Espagnol prit congé de Stein.
Il faut que je m'arrête quelque temps en Andalousie, lui dit-il. Pedro, mon domestique, vous accompagnera à Séville et vous retiendra une place dans la diligence de Madrid. Voilà une lettre de recommandation pour le ministre de la guerre et une autre pour le général en chef de l'armée. Si quelquefois vous avez besoin de moi comme ami, écrivez-moi à Madrid à cette adresse.
Stein était trop ému pour pouvoir parler. D'une main, il prit les lettres et de l'autre, il repoussait la carte de visite que l'Espagnol lui présentait.
« Votre nom est gravé ici, » dit l'Allemand en mettant la main sur son cœur.
« Ah, je ne l'oublierai jamais. Vous êtes le cœur le plus noble, l'âme la plus élevée et la plus généreuse, le meilleur des hommes. »
« Avec cette adresse, » répondit Don Carlos en souriant, « vos lettres risqueraient fort de ne pas arriver jusque dans mes mains. Il en faut une plus précise et plus courte. » Puis il lui remit sa carte et s'éloigna.
Stein y lut « Le duc d'Almansa ».
Et Pedro de Guzman, qui était près de lui, ajouta « Marquis de Guadalmonte, de Val de Flores et de Rocafiel, comte de Santa Clara, de Lucinasola et de Larraille, chevalier de la Toison d'Or et Grand Croix de Charles III, « gentilhomme de la chambre de sa majesté, grande Espagne de première classe, etc., etc. »